spéciale votation.
Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui notre série de débats et de dossiers consacrés aux prochaines votations fédérales du 14 juin avec un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de l'arrêté fédéral concernant la modification de l'article constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine humain. Le peuple devra dire dans 2 semaines s'il accepte ou non de modifier la constitution fédérale pour ouvrir la porte à une nouvelle loi permettant l'utilisation du diagnostic préimplantatoire dans certains cas bien précis. Alors pour débattre sur ce sujet, nous accueillons deux invités dans nos studios. Tout d'abord, Anne Sédoux, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes membre du PDC et vous représentez le canton du Jura au Conseil des États. Vous avez 56 ans, vous êtes mariée, mère de 3 enfants et exercez la profession de juriste et vous êtes favorable à l'autorisation du diagnostic préimplantatoire. Et face à vous se trouve Tom Gerber, bonjour.
Bonjour.
Vous faites quant à vous partie du parti évangélique et êtes vice-président de sa section du Jura bernois. Vous êtes également candidat aux prochaines élections au Conseil national. Vous avez 39 ans, vous êtes mariée et père de 3 enfants également. Sur le plan professionnel, vous êtes maître agriculteur et dans ce débat, vous représentez les opposants à cette modification de la Constitution. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Cathy Romy nous rappelle brièvement en quoi consiste le diagnostic préimplantatoire ou le DPI sous sa forme abrégée. Alors on a petit souci technique, ça va arriver.
Le médical voilà. S'applique lors d'une fécondation assistée. Il s'agit d'un test mené sur une cellule d'un embryon fécondé âgé de 3 à 5 jours avant son implantation dans l'utérus de la mère. Sa légalisation permettrait aux parents atteints de maladies héréditaires graves d'avoir des enfants sains. Elle pourrait également permettre aux parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants par voie naturelle d'augmenter leurs chances de donner naissance à un enfant.
Alors Tom Gerber, le DPI est déjà autorisé dans 15 pays d'Europe sous diverses formes et n'est interdit qu'en Autriche, en Italie et en Suisse. Alors selon vous, qu'est-ce qui justifie encore cette interdiction ?
Alors j'aimerais dire au préalable, je pense que c'est un débat très difficile. Et je pense que ça a à voir avec des valeurs fondamentales qui ne sont pas tout à fait simples. Et je pense que ça a à faire surtout à finalement la sélection. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut, on a le droit, ou est-ce que c'est judicieux de pouvoir dire est-ce que cet embryon, il est un être humain ou il est un être qui est, pour lequel il est digne, la vie est digne d'être vécue ou digne d'être implanté dans l'utérus de sa mère et lequel ne l'est pas.
Alors Anne Sédoux, Tom Gerber évoque ses craintes, des opposants et des dérives. Et ces dérives, elles existent. Par exemple, aux États-Unis, 10% des DPI sont utilisés aujourd'hui pour définir le sexe de l'enfant. Alors cette modification sur laquelle devra se prononcer le peuple le 14 juin, et la loi qui en découlera, est-ce qu'elles offrent suffisamment de garanties pour prévenir des utilisations qui seraient des dérives ?
Alors l'exemple américain que vous venez de donner est typiquement utile pour notre débat, puisque c'est un des examens qu'on refuse dans la Constitution déjà, et la Constitution n'est pas modifiée, on ne pourra pas choisir le sexe de son enfant par le biais du diagnostic préimplantatoire, ça reste totalement interdit. On ne peut pas utiliser ce diagnostic préimplantatoire pour viser certaines caractéristiques d'un enfant, mais on a vraiment limité les cas d'application de ce diagnostic préimplantatoire à 2 situations. On l'a dit, les maladies héréditaires graves, où les parents sont porteurs malades ou sains d'une de ces maladies héréditaires graves. Et puis ensuite, les couples stériles qui sont eux, dans une histoire souvent très longue, avec des fausses couches à répétition, souvent. Et ces fausses couches sont souvent causées par des problèmes chromosomiques. Et là, ce qu'on veut faire et ce qu'on veut permettre, et ce sera pour une toute petite catégorie de ces couples stériles, on veut leur permettre de faire ce diagnostic préimplantatoire pour ne pas implanter un embryon qui serait porteur d'une maladie chromosomique, alors qu'on sait que le risque existe déjà chez cette personne, par exemple des femmes âgées de plus de 35 ans, et puis après qui doivent, par exemple, décider d'un avortement plus tard. Je crois que là, on a vraiment très bien limité les cas. En plus, il faut savoir que aussi bien la fécondation in vitro que le diagnostic préimplantatoire ne sont pas remboursés par la caisse maladie. Et donc, c'est des milliers d'euros pour ce qui se passe à l'étranger à l'heure actuelle, au niveau du diagnostic préimplantatoire, qui sont facturés au couple. Et les gens ne vont pas décider d'un diagnostic préimplantatoire à la légère, de loin pas.
Alors Tom Gerber, on évoque cette possibilité à l'étranger. C'est vrai qu'elle existe aujourd'hui pour ces couples. Il existe un tourisme des soins pour ce type de diagnostic, avec des parents qui se rendent par exemple en Belgique pour en bénéficier. Alors cette situation, d'un côté, provoque des inégalités, puisque seules les personnes qui en ont les moyens peuvent bénéficier de ce type de DPI. Alors est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il ne vaudrait pas mieux créer une base légale qui permettrait à tout un chacun d'en bénéficier selon des normes suisses ?
Alors, vous m'avez déjà soufflé la réponse. La réalité, c'est que même si on le permettrait en Suisse, on ne l'offrirait pas tout à chacun, puisqu'il ne serait pas pris en charge par l'assurance maladie de base. Donc, il serait de toute manière réservé uniquement aux couples qui en auraient les moyens.
Donc, pour vous, la situation actuelle, les inégalités sociales actuelles se retrouveraient en Suisse
Et puis, d'une autre manière, bien sûr, ce tourisme... Il ne me rend pas heureux et fondamentalement, à quelque part, il est à éviter. Mais en même temps, est-ce qu'il faut dire oui simplement parce que quelque chose est possible à l'étranger ? Vous avez cité l'exemple des USA. Ben non, c'est pas parce que c'est possible à l'étranger qu'on peut faire des choses à l'étranger qu'on doit forcément dire oui en Suisse.
Anne Sédoux, aujourd'hui la loi autorise la fécondation de 3 embryons, soit le maximum, qui peuvent être implantés simultanément dans le corps de la femme. La modification de la Constitution ferait passer ce chiffre à 12, avec la possibilité de congeler des embryons sains pour une utilisation ultérieure. Est-ce que là, c'est pas déjà une première dérive, ou est-ce que ça ne revient pas à décider finalement qui doit vivre ou non, comme le disait Tom Gerber ?
Non, absolument pas. Je crois qu'il faut savoir, on ne peut pas partir dans tous les détails techniques, mais que pour faire un diagnostic préimplantatoire, il faut au minimum 9 à 10 embryons. En dessous, et tous les techniciens qu'on a auditionnés le disent, en dessous, ce n'est pas possible. Il faut aussi savoir que dans ces embryons, c'est 12 au maximum, et vous n'obtenez pas chaque fois 12 embryons quand vous faites une fécondation in vitro. Dans ces 12, il peut y avoir déjà la moitié des embryons qui sont atteints par la maladie génétique concernée, par exemple. Ensuite, il y a un pourcentage non négligeable, 40% à peu près, d'embryons qui ne se développent simplement pas. Donc on voit bien que pour avoir un embryon sain, il faut un nombre suffisamment d'embryons pour démarrer. Et puis après, si on a un embryon supplémentaire qui restait et qui serait sain, eh bien cet embryon pourrait être cryoconservé, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Ça empêchera aussi qu'on implante, comme on le fait maintenant, 2 ou 3 embryons, parce qu'on ne peut pas les conserver. Et puis, on aboutit à des grossesses multiples dans une proportion beaucoup plus forte que dans d'autres pays. Par exemple, en Suède, on implante un embryon viable à la fois, et ils en sont à 5% de grossesses multiples, alors qu'en Suisse, on est à 20% de grossesses multiples, avec tous les risques que ça comporte pour les enfants et pour les mères.
Alors, par rapport à ces grossesses multiples, Tom Gerber, vu que vous êtes contre cette modification, on va voir ce qui existe déjà aujourd'hui. C'est à savoir un test prénatal qui permet aussi de mettre en évidence des maladies héréditaires graves ou des anomalies chromosomiques telles que la trisomie 21. Alors, justement, de ce diagnostic prénatal. Alors, est-ce que finalement, il ne serait pas préférable de mener ces tests avant une grossesse et toutes les répercussions physiques et psychologiques qu'elle peut engendrer, vu que c'est des tests, ce test prénatal peut mener à l'avortement ?
Alors, c'est un argument qui est tout à fait recevable. Simplement, moi, je dirais ceci, c'est pas parce que... et c'est une réalité, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est souvent relevé aussi par des couples qui sont touchés, c'est que l'embryon actuel, dans la version actuelle de la loi et de la Constitution, est mieux protégé que le fœtus. Et à quelque part, ça pose la question. Mais c'est pas parce que le fœtus est... mal protégé, qu'il faut enlever la protection de l'embryon.
Anne-Sédoux, ça vous fait réagir ?
Je crois qu'il faut voir la situation réelle. On se base pour les maladies héréditaires graves sur 50 à 50 couples qui recourraient au DPI par année. Pour les couples stériles, on pense à quelques centaines de cas qui pourraient recourir, quand bien même on dit que là où c'est possible... il y a seulement 1% des couples stériles qui recourent au diagnostic préimplantatoire dans le cadre d'une fécondation in vitro. Maintenant, toutes les naissances qui ont lieu en Suisse, il y a 83 000 naissances en Suisse, donc plus de 90 000 grossesses chaque année, toutes se font proposer un diagnostic prénatal qui existe depuis des dizaines d'années et qui, en cas de résultats défavorables, et notamment en cas de trisomie, amène les parents à choisir entre une poursuite de la grossesse, et il y a des couples qui le choisissent, ou bien une interruption de grossesse, ce que la grande majorité des couples choisissent. Et donc là, il faut voir la réalité. Le DPI, ce ne sera que pour un tout petit nombre de couples, et ça restera pour un tout petit nombre de couples, parce que chaque fois, il faut faire une fécondation in vitro. Et ce ne sera jamais un procédé naturel et que tous les couples vont utiliser. Mais pour les gens qui doivent passer par cette fécondation in vitro, pourquoi leur dire, eh bien écoutez, on pourrait totalement analyser les embryons maintenant, à ce stade, avant de les implanter, mais on va attendre, on va réimplanter l'embryon et on va attendre la 11e semaine pour que vous décidiez si oui ou non, en cas de problème grave, qui peuvent être autres que ceux analysés, eh bien vous décidez d'un avortement. Et là, je trouve que d'un point de vue éthique, la réponse pour moi, va clairement en faveur de la solidarité par rapport à ces couples qui sont peu nombreux et qui ont vraiment une souffrance familiale.
Alors Tom Gerber, par rapport à ces couples peu nombreux, hein, justement le DPI permettrait d'éviter à des enfants de souffrir de maladies qui pourraient mener à une mort prématurée. Alors comme le dit Anne Sédou, est-ce que finalement il ne faudrait pas aujourd'hui saisir cette opportunité qui est offerte par la médecine ?
Alors voilà, opportunité, j'aimerais citer un exemple qui a été, cité dans le Temps, et je trouvais assez symptomatique, où une famille qui a utilisé ce DPI et qui l'a fait en Belgique. Et finalement, en lisant cette histoire, je trouvais assez terrible, parce que l'histoire, elle finit par deux enfants, c'est vrai, mais avec un périple sur 4 ans, 50 000 francs aux dépenses, on va dire, ça compte pas pour un enfant, mais beaucoup de souffrance, un chemin, j'aurais presque dit un chemin de croix, un chemin terriblement difficile. Et c'est pas à moi de juger cette famille. Mais en lisant ce récit, je me suis quand même posé la question, est-ce que finalement, cette famille n'a pas beaucoup plus souffert que si elle avait fait le deuil d'avoir un enfant supplémentaire ou un enfant? Et dans ce sens-là, voilà, la question, elle est posée. Et je pense, personnellement, je respecte tout à fait cette argumentation. Elle est... Je dis encore une fois, c'est un thème qui est vraiment compliqué. Mais simplement voir les débats au Parlement, la problématique, c'est on commence où et on s'arrête où. Et pour moi, de dire oui au DPI, à quelque part, il y a bien sûr des arguments pour. Et particulièrement si on considère des cas individuels, et je peux comprendre tout à fait les personnes, les couples qui sont touchés, qu'elles aient envie d'avoir recours à ce DPI. Mais on ouvre la boîte de Pandore. On ouvre une problématique où, et les débats, quelque part, ils le montrent d'une certaine manière, c'est « on s'arrête où ?» Alors, le prochain débat, et il a même en partie déjà été lancé, c'est la question de l'utilisation du DPI ou des fœtus comme médicament ou comme aide pour voilà, un enfant qui est aussi qui est sujet à une maladie grave. Bien sûr, on peut dire « mais on lui aide ». Mais, à quelque part... Je pense qu'on doit dire non, parce qu'on ouvre, un débat, on ouvre une problématique où c'est extrêmement difficile. C'est comme à quelque part, pour moi, on met à quelque part les pieds dans des sables mouvants, et puis on ne sait pas vraiment où on va en sortir.
Alors Anne Sédou, à cette question de la boîte de Pandore, hein, vous secouez un peu la tête.
Je la secoue totalement. En ce sens que je ne pense pas qu'on puisse dire, par rapport à la législation qu'on propose à la population suisse, qu'on ouvre la boîte de Pandore. Bien au contraire, on garde un cadre légal très restrictif. Comme je l'ai dit, ça ne vise que deux situations. Et les couples qui se trouvent dans ces situations. Le bébé sauveur, il a été exclu de la liste des hypothèses. Mais il faut savoir aussi qu'au fur et à mesure que la médecine évolue, forcément, des ouvertures sont possibles. Et c'est à chaque société, au fur et à mesure de son évolution, de se déterminer. Mais je dirais surtout, c'est à chaque couple de décider de ce qu'il veut pour sa famille. Et si des couples ont un besoin d'enfants et qu'ils ont envie de réaliser ce besoin d'enfants et qu'ils ont envie d'avoir un frère ou une sœur pour l'enfant qui est déjà là, eh bien je crois que ça, c'est leur responsabilité, leur choix. Et que nous, comme législateurs, on doit juste mettre à leur disposition les possibilités de réaliser ce choix dans les meilleures conditions possibles. Et les meilleures conditions possibles pour moi, elles sont en Suisse, parce que puisque ces gens doivent payer eux-mêmes les frais, au moins ils n'auront pas à aller à l'étranger et à subir des frais supplémentaires. Et on a ici en Suisse des équipes médicales extrêmement compétentes et qui sont très sensibles et très responsables par rapport aux limites posées. Et on avait aussi parlé d'ouvrir la boîte de Pandore quand on a adopté le diagnostic prénatal. On voit bien qu'il n'y a pas eu d'abus. On en a parlé aussi quand il y a eu l'introduction de la fécondation in vitro. On voit bien qu'il n'y a pas eu d'abus. Donc je crois qu'on peint le diable sur la muraille pour faire peur aux gens, mais que la réalité, c'est qu'on permettra à des couples d'avoir une vie familiale heureuse dans des bonnes conditions.
Tom Gerber, cette question de la liberté individuelle, pour vous, comment elle est traitée dans ce dossier ?
Mais la liberté individuelle, elle est très importante. En même temps, la liberté individuelle, elle s'arrête toujours où commence la liberté des autres. Et puis chaque société doit quelque part fixer un cadre légal, et ça n'est pas seulement dans celui-ci, c'est dans tous les domaines de la vie où c'est finalement la société. On a le grand bonheur de vivre dans une démocratie, en plus dans une démocratie directe, où c'est finalement le peuple, dans sa majorité, qui fixe le cadre légal. Et je pense que la liberté individuelle, elle doit se mouvoir dans ce cadre. Ce que j'aimerais encore dire, c'est que, et puis c'est une des craintes, clairement, en tant qu'opposant, c'est qu'à quelque part, ça devienne, je presse dit, une tare de mettre au monde un enfant qui est handicapé. Et je pense que c'est un danger à l'avenir. Alors bien sûr, à long terme, non, mais à quelque part, je pense que le risque, clairement, il est couru, en disant oui au DPI, qu'à l'avenir, on nous dise, mais pourquoi vous n'avez pas fait un diagnostic prénatal ? Vous auriez pu éviter un enfant trisomique. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux. Et d'ailleurs, quand même, à relever, où, ben, finalement, pourquoi une bonne partie où les associations d'handicapés sont défavorables, sont contre ce DPI ? Parce que justement, on court ce danger de considérer l'être humain, l'enfant qui est handicapé, comme une charge évitable.
Anne Sédou, sur cette question de la stigmatisation des handicapés.
Je trouve que c'est vraiment un argument abusif qui a été donné par quelques collègues parlementaires. Je crois que c'est vraiment pas le cas. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a du diagnostic prénatal depuis plus de 20 ans et qu'il n'y a aucune pression qui est faite ni par les caisses maladies, ni par la société pour stigmatiser les parents qui n'ont pas voulu faire un diagnostic prénatal. Il dépend toujours de la volonté des couples. Et c'est la même chose pour le diagnostic préimplantatoire. Je crois vraiment que ce ne sera pas le cas. Ensuite, j'ai plutôt l'impression que pendant ces 20 ou 30 dernières années, les enfants handicapés ont fait l'objet de plus d'attention, de plus de soins, d'une meilleure intégration, aussi bien dans la société que dans les écoles, malgré le fait qu'il existe un diagnostic prénatal et puis qu'il va, j'espère, exister un diagnostic préimplantatoire. Et ensuite, il y a X formes de handicap qui ne sont pas des handicaps qui peuvent être dépistés dans ce cadre-là et qui existeront toujours. Donc je crois que ça, c'est un argument abusif. Et si jamais il y avait une tentation de quelqu'un d'arriver avec ça, je pense que des gens comme vous qui seraient au Conseil national vont s'y opposer très fermement et vont tout faire pour que ça ne se passe pas. Donc je n'y crois pas un seul instant.
Pour terminer, hein, juste en quelques mots, vous représentez tous les deux des partis d'obédience chrétienne, pourtant vous ne partagez pas le même avis. Alors vous, Tom Gerber, en quoi vos croyances religieuses influencent votre position dans ce dossier ?
Alors, je pense qu'il faut faire attention, parce que c'est vrai que je suis croyant, mais ce n'est pas parce que je suis croyant. Et dans ce sens-là, en tant que croyant, on peut avoir des avis divergents. Et c'est dans ce cadre-là aussi que je respecte tout à fait les avis des personnes qui disent oui à ce diagnostic préimplantatoire, bien que personnellement je suis favorable pour clairement un non. Mais c'est vrai, je suis par exemple contre l'avortement. Même si je peux le comprendre, mais moi-même, je suis un enfant qui, sur avis médical, aurait dû être avorté. Je suis heureux d'être au monde. Et je pense que ma croyance, elle m'inspire, mais loin de moi l'idée que je lirais dans l'Évangile la solution ou la juste parole. C'est aussi une question d'éthique, mais l'éthique, ce n'est pas une science exacte, et en matière d'éthique, on peut avoir des avis divergents.
Et vous, Anne Sédou, aussi juste en quelques secondes, les croyances religieuses, quelle est leur place pour vous? Quelles sont leurs places dans ce débat?
Alors, les croyances religieuses, pour moi, elles ont affaire à ma vie privée et éventuellement familiale. Pour le reste, je suis parlementaire et j'essaye de contribuer à élaborer des lois qui soient dans l'intérêt général de l'ensemble de la population, indépendamment des croyances des uns et des autres.
Nous arrivons au terme de ce débat déjà sur le diagnostic préimplantatoire. Donc nous étions en compagnie d'Anne Sédou, conseillère nationale PDC pour le canton du Jura, et de Tom Gerber, vice-président de la section du Jura bernois du Parti évangélique. Alors merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Et ce sera donc au peuple de se prononcer sur cet objet le 14 juin prochain, et vous pourrez retrouver ce débat en intégralité sur notre site internet.
Spéciale votation.